Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir à 19h22 dans le débat du Club des Idées, comment protéger nos aînés pendant ces vacances de la Toussaint? La seconde vague est là, a dit hier Jean Castex, le Premier ministre. Les contaminations progressent, les hospitalisations aussi, même si on est bien loin. On en parlera des chiffres du mois d'avril dernier. Mais avec les vacances, beaucoup de familles vont se retrouver, se rendre visite. Alors comment faire pour limiter les risques en famille, dans les EHPAD également? Faut-il renoncer à voir papy et mamie ou simplement appliquer des mesures de précaution particulières? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Jérôme Guedge. Vous êtes conseiller départemental PS de l'Essonne, auteur d'un rapport sur l'isolement des personnes âgées et auteur du livre « Plaidoyer sur les vieux » sorti en 2013. Bonsoir Daniel Rapoport.
Bonsoir.
Vous êtes psychosociologue, spécialisé également dans les questions du vieillissement et des ruptures de vie, auteur de « L'aventure au coin de la ride » aux éditions RS. Et bonsoir à vous Benjamin Davido. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Peut-être un premier mot d'ailleurs avec vous. Est-ce que les plus de 65 ans sont toujours les plus vulnérables au virus ?
Oui, absolument. Il y a exactement le même gradient qu'au mois de mars, c'est-à-dire que les patients qui sont hospitalisés ont un, deux ans près le même âge, que ce soit en hospitalisation conventionnelle, en réanimation ou les décès. Et donc, il y a un gradient. Plus on est âgé, plus on est vulnérable, plus on a aussi d'ailleurs de comorbidités, c'est-à-dire d'antécédents, de maladies. Et donc, plus on est à risque de faire une forme sévère.
C'est vrai que c'est ce qu'on entend du matin au soir avec le fameux spot de sensibilisation du gouvernement qui n'est pas très heureux d'ailleurs, et qui le rappelle, 9 personnes sur 10, dit la voix off, qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas, absolument. Alors qu'on voit le verre à moitié vide, ça veut dire qu'une personne sur 10 qui décède a moins de 65 ans. Et ça, c'est les situations qu'on veut à tout prix éviter. Et puis peut-être, on en parlera tout à l'heure, aujourd'hui, la problématique, au-delà de ces sujets vulnérables, c'est comment faire pour ne pas arriver dans ces chaînes de transmission, c'est-à-dire des plus jeunes vers les plus âgés, et qui pose problème si on veut régler le problème et le prendre à la racine.
Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le taux de mortalité, pardon de cette question un peu morbide, mais c'est important, le taux de mortalité pour les personnes atteintes de la Covid qui ont plus de 65 ans?
Oui, c'est 5%.
5%.
Absolument.
Donc il y a 5% des plus de 65 ans qui sont infectés par le virus qui décèdent.
Absolument, et à contrario, chez les moins de 40 ans, c'est 0,02%. On voit bien qu'il y a une vraie différence. Encore une fois, aujourd'hui, au-delà de la mortalité, je pense qu'on est dans une dynamique qui est beaucoup plus loin, qui est comment apprendre à vivre avec, faire en sorte que tout le monde puisse travailler, ne pas tomber malade et éviter de se retrouver dans une situation aussi de culpabilisation qu'on a vue parfois à l'hôpital, où il y a des petits-enfants qui ont contaminé leurs grands-parents, leurs parents, et qui se retrouvent très embêtés.
Alors justement, c'est toute la question, Daniel Rapoport, comment protéger les personnes âgées pendant cette période de rassemblement des vacances de la Toussaint?
Alors, je souhaiterais intervenir déjà sur protéger, donc sur cette notion-là, qui est que l'on n'est pas obligé de protéger tout le monde déjà, et que chacun peut se protéger aussi soi-même. C'est-à-dire que la notion de protéger les personnes âgées, ça veut dire de tout mettre dans une catégorisation de gens qui, a priori, sont fragiles. Oui. Donc, les plus de 65 ans, mais ça ne veut rien dire, parce que de 65 à 75, on peut être encore en pleine forme. On peut commencer des maux divers et variés. Et ce qui est très embêtant, c'est que...
Il y a quand même une convergence des chiffres. Plus on est âgé, plus on a des chances de mourir du virus.
Je sais bien, mais il y a des perceptions qui ne sont pas que dans le chiffrage et qui ne sont pas que dans le quantitatif. Et c'est ça la grande oubliée de tout ce qu'on nous raconte maintenant, c'est toute la problématique de la perception interne que l'on peut avoir de ses capacités, de notre force intérieure qu'on est en train de démolir à petit feu en disant, vous êtes fragile et on va vous protéger, égal, on vous fait peur, égal, on vous infantilise.
Oui.
Et à ce moment-là, ça manque de synergie entre un collectif qui pourrait être dans la bientraitance et dans l'écoute, et des personnes justement qui sont des êtres humains avec leur...
Alors, on essaiera d'être concret dans quelques secondes sur les mesures à prendre avant d'aller voir nos aînés, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos parents également. D'abord, sur le sentiment d'infantilisation, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient d'être dit, Jérôme?
J'entends parfaitement ce que dit Daniel Rapoport à l'instant. On a un virus qui est particulièrement agiste, c'est-à-dire qui cible les personnes âgées. Et du coup, il ne faut pas pour autant que dans les réponses qu'on apporte, on donne l'impression de stigmatiser les personnes âgées et de leur renvoyer à ce statut. Mais en même temps, je suis obligé de le dire à ce moment-là, faire cela y compris prendre des mesures parfois drastiques de précaution.
Vous parlez des EHPAD notamment.
Dans les EHPAD, mais aussi à domicile, mais par exemple dans les EHPAD, il faut nommer les choses. C'est un mal nécessaire, parce que si ces mesures ne sont pas prises, alors on sera face à quelque chose de bien plus terrible, à savoir une mortalité accrue chez les personnes âgées. Je rappelle que la moitié des victimes aujourd'hui du Covid, les 15, enfin, environ 15 à 16 000 sur les 31 000 décès qu'on compte malheureusement aujourd'hui, ce sont des résidents d'EHPAD, des résidents de maisons de retraite. Donc ça veut dire qu'on doit protéger, c'est-à-dire que je partage la petite musique, faisons attention de ne pas stigmatiser les personnes âgées, de ne pas les infantiliser, mais en sens inverse. Si on disait laissons faire, laissons aller, bien comme sûr. J'ai entendu dire parfois des discours totalement irresponsables en disant bah, c'est pas grave, c'est un mal nécessaire, les vieux doivent mourir parce qu'ils doivent bien mourir un jour. Ça, je pense qu'à l'inverse, c'est un discours terrible, détestable dans le pays, parce que la responsabilité collective d'une société, de ses décideurs comme de chacun de ses composantes, chacun des citoyens, c'est quand même de protéger les plus fragiles.
Mais se pose également, Jérôme Guedj, on en parlera juste après la pause, la rupture du lien social aussi avec les proches. A tout de suite, 19h28.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on est toujours dans le débat du Club des Idées, en direct dans Europe Soir. Comment protéger nos aînés pendant ces vacances de la Toussaint? On en parle ce soir avec nos invités. Alors peut-être, Benjamin Davido, vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Peut-être quelques mesures concrètes avant d'aller voir nos aînés, non pas dans les EHPAD, mais nos grands-parents, nos parents, pendant les vacances de la Toussaint, il va y avoir des rassemblements familiaux. Quels sont les conseils que vous donnez aux gens qui nous écoutent pour limiter les risques?
D'abord, on sait, à l'instar de ce qui a été préconisé pour les restaurants, qu'il faut éviter d'être plus de 6 autour d'une table. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce chiffre-là qu'on sait qu'il y a un risque de contamination et que factuellement, avec les
pourquoi
vacances...
Pourquoi 6?
Parce qu'en fait, on a ce fameux R0 de la maladie qui fait qu'en gros, au-delà de 4 personnes, le risque commence à devenir significatif. Et 6, on a vraiment des chances ou une malchance d'avoir contaminé quelqu'un d'autre en face de soi.
Aujourd'hui, le R0, il est à 1,21, je crois.
Absolument. Ouais. Et donc, aujourd'hui, enfin, ça dépend quel est le calcul. Est-ce qu'on prend celui des urgences, le R0, le RR effectif, etc. C'est toujours compliqué. Mais on va se retrouver dans des situations avec un délai qui est plus court par rapport aux grandes vacances, où on va en effet voir d'autres individus. Et qu'on sait que c'est une maladie où plus le nombre de contacts est important dans la journée, ce qui fait encore une fois que c'est un fléau des jeunes, plus on risque d'être transmetteur.
Donc,
il faut limiter les contacts. Pas
le
plus de 6 personnes,
masque,
idéalement, lors des rassemblements. C'est pour ça qu'on dit 10 individus, puisqu'on est en extérieur, etc. Et je crois que, premièrement, d'abord, les gens qui se savent fragiles ont l'habitude et maintenant portent le masque largement.
En intérieur y compris.
Absolument. C'est très important d'aérer les pièces lorsqu'on va faire justement ces regroupements familiaux qu'on va se voir lors d'un dîner, d'un repas de famille.
Est-ce qu'on doit s'imposer, par exemple, une mini-quarantaine pendant les vacances lors de la première semaine et privilégier la seconde semaine avant d'aller voir sa famille?
Justement, ce que je voulais dire après, c'est que pour ce qu'on peut appeler le premier cercle, c'est-à-dire l'entourage proche, on ne peut pas tomber dans des mesures excessives où on va tous se voir et s'embrasser masqués. Ça n'a pas de sens.
Oui.
Les gens d'ailleurs qui vivent sous le même toit, on sait, partagent le même risque.
Donc il faut prendre son risque,
Il faut prendre le maximum de précautions face aux gens qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire, c'est cette fameuse bulle, vous savez, qu'ont appliqué les Belges. C'est-à-dire un nombre d'individus ciblés que vous voyez de façon fréquente. Pour quelle raison? Au-delà du fait que le risque zéro n'existe pas, c'est que ces mêmes personnes, si vous pouvez les tracer, les nommer, eh bien vous minimisez le risque parce que vous êtes capable de remonter les chaînes de transmission. Et c'est ça aujourd'hui qui pêche et qui explique que l'épidémie n'est pas contrôlée.
Bien. Daniel Rapoport, vous êtes psychosociologue spécialisé dans les questions du vieillissement et des ruptures de vie. On évoque beaucoup la manière dont le message est transmis aux Français, notamment ce soir. Vous voyez, on en parle en donnant des clés de conseil et de pédagogie pour tous ces Français qui vont se rassembler. Et vous insistez aussi sur la manière dont ce message est perçu et reçu par ces Français, et notamment les personnes âgées.
Exactement. Et alors, il y a plusieurs choses. Donc, pour que le message soit reçu, il faut qu'il y ait d'abord une crédibilité du message. Donc même si les émetteurs ne savent pas tout.
Benjamin Davido, ici présent, est a priori crédible.
Il est légitime, il est crédible dans le sens où il s'exprime de manière claire.
Oui.
Et je peux penser que c'est vrai. Donc même si ce n'est pas complètement vrai, mais je peux penser moi que c'est juste et vrai. Et parce que...
Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il y a un problème de clarté de la part des messages qui sont envoyés par l'exécutif.
Si on n'est pas dans la cohérence dans les messages qui sont dits, on n'a pas la possibilité de décryptage d'un message et on n'a pas la possibilité de s'approprier le message et d'en faire sien et de le mettre en action.
Ouais.
Donc il faut de la crédibilité, de la légitimité et de la cohérence dans les messages.
Bien.
Et, pardon, et un système de récompense quelque part. Parce que le cerveau humain est fait de telle sorte qu'il ne fonctionne qu'à la récompense. Et si on n'est que dans des sortes de négativisme et de dépression, et de dépréciation et de faiblesse, de fragilisation, il n'y a pas moyen de trouver quelque part quelque chose qui nous donne envie, qui nous donne le désir de pouvoir suivre ces directives.
Le fait d'adhérer aux directives, il faut avoir une récompense à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire une récompense, Benjamin Davidot?
Oui, moi ça me fait sourire parce que justement, hier dans le 20 minutes, il y a une tribune où j'expliquais que pour que les jeunes s'approprient le Covid, d'abord il faut les médias qui leur parlent, hein, donc c'est-à-dire c'est les influenceurs, YouTube, pas forcément malheureusement les chaînes généralistes de télévision et de radio. Et qu'à l'extrême, il faudrait des annonceurs pour une récompense avec la publicité. Et cette récompense, elle peut se faire d'ailleurs de façon monétaire, forfaitaire. Vous savez, il y a des applications qui récompensent avec la publicité. Et que par exemple, on promouvoit, je vais vous expliquer, le dépistage. Vous êtes jeune, vous faites un like, vous faites un selfie. Vous dites, je me suis confiné, je me suis fait tester. J'ai fait dépister 10 personnes dans mon entourage qui étaient contact. Vous gagnez 10 centimes, je ne sais pas, 1 euro, etc.
Oui, ou un gamin.
Vous pensez qu'il faut promouvoir
Moi, je pense qu'il faut, en tout cas, promouvoir. Il faut des actions. Est-ce que ça passe par des parents?
On va dire que ça s'appelle plutôt le civisme et qu'on va plutôt le mettre sur le terrain. Alors, c'est compliqué. Mais il y a un enjeu aussi. C'est un test grandeur nature de l'exercice de la cohésion nationale. À un moment donné, on pouvait avoir la tentation, parfois, d'une guerre des âges. Mmh. Les jeunes contre les plus âgés. Rappelez-vous ce qu'on avait dit à un moment sur les problèmes de climat et d'environnement. Il y avait cette terrible expression « ok boomer ». Vous, les boomers, la génération bénie, vous avez profité, vous nous laissez la planète dans un sale état. Moi, je déteste toutes ces discriminations liées à l'âge et toutes ces séparations. C'est le moment, au contraire, de dire « nous faisons société ensemble ». Et d'une certaine manière, on l'a fait pendant le confinement. Moi, je le dis souvent, on a remis les fragilités au milieu du village. C'est-à-dire que le pays a été capable de s'arrêter, ça a eu des conséquences terribles, y compris économiques et sociales, mais on a placé comme valeur et comme vertu supérieure cette idée de se dire, on est capable de protéger les plus fragiles.
Mais
on
l'a fait, faites encore plus de sacrifices alors qu'ils y laissent une partie de leur jeunesse, aucune perspective d'embauche,
par exemple. Je comprends parfaitement,
sauf
que tous ces jeunes-là ont des parents, des grands-parents qu'ils chérissent, et que cette force de la relation intergénérationnelle, elle doit être remise. Moi, c'est ça la récompense qui m'intéresse. C'est ça, d'une certaine manière. La valorisation, c'est de dire...
Donc,
vous
c'est
êtes
aussi
dans
le conseil,
continuum.
Pour revenir à notre débat de ce soir, protéger nos aînés, c'est aussi le conseil que vous donnez aux plus jeunes ce soir.
Vous avez une responsabilité fantastique. C'est un accélérateur de maturité. Vous allez passer de l'âge de l'adolescence ou de l'adolescence à une forme de, voilà, je suis pas un individu égoïste dans la société. Je suis capable aussi, à un moment, de faire ces micro-sacrifices qui sont durs. Et je ne les minore pas, ça a des retentissements terribles en termes de psychologie, en termes de développement personnel. Mais voilà, on fait société tous ensemble à un moment donné, et il faut aussi leur donner le rappel, en effet, de ces consignes simples, et qui n'excluent pas le fait de faire lien, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus contraignant. Il y a besoin de lutter contre l'isolement des plus fragiles et des personnes âgées. L'isolement, il est aussi mortifère. Oui. Il peut être détestable.
C'est l'importance du lien social que j'évoquais tout à l'heure.
Ce lien social, il est crucial. Daniel, il faut le chérir.
C'est pour ça, je trouve que ces fameuses vacances-là dont on parle, c'est une belle école aussi de la responsabilité, du rapport à l'altérité, du rapport à l'autre. L'autre, c'est celui qui est à protéger, mais l'autre, c'est en soi aussi quelque chose, parce que ce Covid ou cette Covid a quand même montré que tout le monde était vulnérable, les plus jeunes et les plus âgés. Donc c'est effectivement l'école de la conscience de sa vulnérabilité propre et de celle de l'autre. Donc c'est vraiment de l'humain total.
Oui, on parlera dans un instant de la situation dans les EHPAD avec nos invités. 19h39, vous restez avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat du Club des Idées à 19h40, comment protéger nos aînés pendant ces vacances de la Toussaint. On en parle ce soir avec nos invités. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à la situation à Jérôme Guedj dans les EHPAD. Quelle est la situation aujourd'hui? J'ai vu qu'on recense, ce sont les derniers chiffres, 304 foyers de contamination. C'est absolument énorme. Et vous disiez tout à l'heure, en préambule, que sur les 32 000 victimes du Covid, à peu près 15 000, c'est-à-dire la moitié quasiment, sont mortes dans des établissements type EHPAD.
Oui, au plus fort de la crise, parce que là, quand le virus rentrait, il était redoutable et il passait très vite.
Sur des personnes déjà fragiles.
Voilà, alors là, la situation pour avoir échangé avec plusieurs directeurs d'EHPAD et soignants ces derniers jours, est un petit peu différente. C'est que oui, il y a des clusters plus nombreux dans les EHPAD, mais pour la raison assez évidente qu'on connaît, c'est qu'on dépiste beaucoup plus dans les établissements, mais on n'a pas, et croisons les doigts, de clusters avec des très fortes mortalités. Il y a encore malheureusement quelques EHPAD où il y a 5, 6, 7, 8 décès qui peuvent survenir.
Et c'est chaque établissement qui décide de ses propres règles. Il n'y a pas de protocole national.
Alors, je crois que ça, c'est extrêmement important. Il faut pas oublier, on parlait de civisme tout à l'heure, y compris penser à eux. Il y a environ 400 000 personnes qui travaillent dans les EHPAD, qui accompagnent tous les jours 600 000 résidents dans les quelques 7 000 EHPAD de France.
C'est 1% de la population, pour que chacun se situe à peu près.
Ça, globalement, tous les salariés de ces établissements sont épuisés. Enfin, ils ont vécu, comme à l'hôpital d'ailleurs. Et un des civismes qu'on doit avoir, c'est de se dire qu'ils sont pas corvéables à merci. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Donc, il y a un véritable enjeu à faire en sorte que ça tienne. Et ce qu'ils nous disent, c'est que c'est eux-mêmes qui peuvent prendre les décisions au cas par cas, en fonction de la situation locale. Si possible, et moi je le plaide pour ça, en tenant compte des personnes âgées elles-mêmes, en tenant compte de leur aspiration, de dire, on peut prendre, non pas prendre des risques, mais avoir des visites qui sont encadrées. Il ne faut pas interdire les visites. Oui, oui. Ça, je pense qu'il faut sortir de là, parce qu'interdire les visites, c'est détestable.
C'est la question que je voulais vous poser à tous les deux, et à Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Qu'est-ce qui est le plus souhaitable? Qu'on continue à rendre visite à nos aînés dans les EHPAD parce qu'il faut maintenir ce lien social, ou à éviter tout rapprochement pour éviter le risque de contamination?
Je crois que dans la logique de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il ne faut pas couper le lien social. Le président a beaucoup dit qu'il faut apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, on est dans une politique de test, comme ça a bien été expliqué. On a des masques, on peut se protéger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, on reprend à la PHP les visites avec des conditions particulières, y compris pour les malades atteints de la Covid.
Mais par exemple, j'ai vu aujourd'hui qu'une étude révélait que le virus peut être présent sur des surfaces, les téléphones portables notamment, ou les surfaces plastiques, pendant 28 jours. Comment être sûr du risque zéro dans un établissement type EHPAD?
Alors premièrement, d'abord, le risque zéro n'existe
ça
jamais n'existe en médecine.
Pas.
Ça, c'est la première des choses. Il faut accepter les risques et c'est comme ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% de la contamination se fait par aérosolisation et par gouttelettes. Et aujourd'hui, on n'a pas de preuves scientifiques, notamment de contamination via les surfaces inertes, ce que vous avez cité. C'est la même chose aussi pour les billets de banque. Et donc, il ne faut pas tomber dans cette peur, panique, anxiogène où, en fait, dès qu'on va toucher quelque chose, on va se contaminer. Aujourd'hui, on sait ce qui nous a manqué. Souvenez-vous, notre ministre de la Santé avait dit qu'il suffit de se laver les mains, l'épidémie sera derrière nous. En février, on connaît la suite. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué cruellement, c'est le masque. Et le masque, c'est l'alpha et l'oméga. Donc il faut, on
le masque,
tout à l'heure,
ce qui est absolument essentiel, pardon, vraiment sur ce point, sur les EHPAD, parce que là aussi, il y a beaucoup de témoignages. Il faut vraiment que les familles, et je suis sûr que l'écrasante majorité d'entre elles le respectent, mais il suffit que quelques-unes ne le fassent pas, respectent de manière drastique les gestes barrières. Quand on franchit le seuil d'un EHPAD, alors là, la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, elle doit être multipliée par mille. C'est-à-dire que vraiment, on vient, il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas d'embrassade. Il faut vraiment faire gaffe. C'est dur, mais il faut vraiment respecter les consignes que les professionnels donnent. C'est eux qui connaissent.
Oui, bien sûr.
Il faut tenir compte de ce que veulent les personnes âgées.
Alors,
donc,
Jérôme
pas de mesures coercitives, mais pas non plus de laisser aller parce que c'est trop dangereux.
Je vais vous faire écouter un témoignage qui va sans doute vous intéresser. Il s'agit du directeur de l'EHPAD de Monestier dans le Tarn. Il s'appelle Guillaume Marzocchi et il a mis en place un établissement pilote.
Le concept est assez simple. On a tiré des enseignements de la première vague, durant laquelle on s'est aperçu que pour enrayer le risque épidémique dans nos EHPAD, on n'avait qu'une seule solution, c'était d'isoler les personnes en chambre. L'établissement qu'on a créé, c'est un établissement qui va recevoir des personnes touchées par le Covid, positives, asymptomatiques et qui peuvent potentiellement présenter des troubles cognitifs également. Donc on peut accueillir jusqu'à 15 personnes pour une durée d'environ 10 à 15 jours en fonction des tests PCR. Le personnel est formé, sensibilisé et équipé pour se protéger lui-même de ce virus.
Voilà, Daniel Rapoport, peut-être une réaction. C'est un établissement, vous avez compris, qui est dédié aux personnes, aux résidents d'EHPAD qui sont testés positifs à la Covid.
Écoutez, moi, je pense qu'il y a EHPAD et EHPAD. Alors, justement, il y en a qui ont travaillé beaucoup sur l'accompagnement des résidents pour les considérer comme de vraies personnes jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire, soit par manque de personnel ou par fatigue, et qui font que les résidents sentent qu'ils ne sont ni considérés, ni de pouvoir dire un peu ce qu'ils ont envie de dire, hein, parce que les personnes âgées, et jusqu'à tard, ils peuvent être des créatifs, ils peuvent donner des idées, et et on a l'impression que la vie est terminée déjà. Donc c'est un peu dommage que toute cette partie de vie qui n'est pas encore une fin de vie est fait que les gens n'ont pas l'impression qu'ils existent vraiment à leurs yeux et aux yeux des personnels soignants. Et voilà. Et alors, quant à la famille, il faut vraiment que la famille soit présente aussi et d'une manière, comme vous le disiez, de protection.
Comme le disait Jérôme
Guéche.
Alors, Benjamin Davido, j'ai une question qui me vient quand on écoute ce témoignage. Les asymptomatiques chez les plus de 60 ans, ça représente beaucoup de malades du virus.
C'est une minorité. Moi-même, ça me faisait penser à quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que nous, en fait, en médecine, on raisonne à ce qu'on appelle le J0 des symptômes. C'est le premier jour des symptômes. Ce qui est parfois extrêmement compliqué pour des gens qui résident en EHPAD, qui ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire des démences, et qui ont du mal à exprimer le début des symptômes. Et ce qu'on sait, à contrario, c'est que ces mêmes personnes, caricaturalement de plus de 80 ans, peuvent être excréteurs, c'est-à-dire porter du virus pendant en moyenne plus de 3 semaines, voire un mois. Et ce qu'on sait médicalement, c'est qu'au-delà de 24 jours, les gens ne sont plus contagieux. Donc il y a tous ces paramètres, et donc je pense que dans ces asymptomatiques, il y a probablement des gens sur lesquels on a des dépistages tardifs, pour lesquels, en fait, la pathologie qui a conduit à être en EHPAD, c'est-à-dire une perte d'autonomie, prédomine sur le diagnostic
Sur le diagnostic et les symptômes de la COVID.
Exactement.
Peut-être un dernier mot, il nous reste quelques secondes. Jérôme Guéche, vous réagirez également après. Qu'est-ce que vous attendez, vous, demain, de la prise de parole du chef de l'État?
Je ne sais pas si on peut dire que j'attends quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, comme ça a été dit tout à l'heure, une parole de clarté et uniciste. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que s'il y a quelque chose d'important à faire qui n'a peut-être pas été assez fait jusqu'alors, c'est une parole pour les jeunes, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, qui s'adresse à eux, pour qu'ils prennent conscience de ce rôle qu'ils ont à jouer, qui est décisif, à mon sens, et qu'on ne soit pas dans des mesures coercitives.
Donc le couvre-feu, vous pensez que c'est une mauvaise mesure?
Je pense que ça n'apportera rien de plus, si ce n'est de dire qu'aux gens qu'on se contamine majoritairement après 23 heures et pas avant, ce qui est faux, et qu'il faut encore une fois arrêter d'additionner des mesures coercitives pour que les gens adhèrent et qu'on soit dans la pédagogie.
Jérôme Guéche, il nous reste 30 secondes.
Cette crise, elle a renforcé une culture de la santé publique, et donc il y a des mesures qu'on peut encore prendre aujourd'hui pour éviter de saturer le système sanitaire et hospitalier. Je pense notamment à la vaccination de la grippe, puisqu'elle a commencé aujourd'hui, vous en parlez dans votre journal, pour les plus de 65 ans, pour les personnes fragiles, pour les femmes enceintes. Vraiment, faites-le. Parce que d'abord, j'espère qu'au-delà de cette crise, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura pris l'habitude dans ce pays de porter un masque quand on a la grippe soi-même et qu'on est contagieux, et de se faire vacciner. Et j'en profite, moi j'aimerais qu'ils puissent annoncer, ce ne sera pas cette année, mais que dans les années à venir, il y aura une vaccination obligatoire pour les personnels soignants. Ce n'est pas le débat de ce soir, mais j'ai toujours été très frappé de voir que les personnels soignants en EHPAD ou à l'hôpital qui sont en contact des personnes fragiles, pour l'instant n'ont pas d'obligation vaccinale. Si on veut que la culture de la santé publique se renforce dans ce pays, il faudra aussi qu'on admette qu'on puisse avoir des mesures, là, pour le coup, un peu contraignantes pour ceux qui sont au contact des plus fragiles.
Message entendu. Merci Jérôme Guéche. Merci à tous les trois d'avoir participé au débat du Club des Idées.